jusqu'à 20h au réseau Cogeco Média. Voici Ça va aller loin avec Geneviève Peterson.
Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Et je vous rappelle qu'à partir de maintenant, nous aurons 4 émissions par semaine et ce, jusqu'à la mi-juin. Je crois qu'on termine la saison le 19 ou le 20 juin. Je vous en reparlerai, mais on va passer beaucoup de temps ensemble à mon plus grand bonheur. Et puisqu'on fait de la poutine, là, je vous dis aussi que l'émission est toujours disponible en primeur sur le web aux alentours de 15h. Vous allez sur l'application Cogeco Média et vous pourrez nous retrouver à l'heure de votre convenance. On est aussi sur toutes les applications où vous aimez écouter vos podcasts. Et hier, je vous posais la question. Je vous confiais que ça faisait 4 mois que je ne buvais plus et que je trouvais ça difficile en ce moment avec l'arrivée des beaux jours de me priver d'alcool. C'est les terrasses. J'ai des fantasmes de vin blanc, disons-le comme ça. Vous avez été plusieurs à m'envoyer vos trucs. Il y en a qui sont un peu loufoques. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit d'aller dans la douche. Puis là, je riais. J'étais comme, mais ces gens-là me niaisent. Mais finalement, j'étais allée lire des choses sur les dépendances, puis même la dépendance au sucre. Et le truc de la douche revient souvent. Aller prendre une douche, aller prendre une marche, aller faire une séance de sport au gym. Bon, je sais pas si ça fonctionne. Je l'ai pas encore essayé, mais merci de participer à cette émission en si grand nombre. Je vous rappelle que c'est toujours possible de le faire au 98985. Ça, c'est notre messagerie. L'adresse courriel de l'émission, ça va aller loin, @98.5fm.ca. C'est moi qui les lis, hein, tous les messages. Et je vous réponds. Et il y a toujours nos médias sociaux aussi pour réagir au sujet de l'émission. On en aura plusieurs, d'ailleurs, des sujets qui feront réagir aujourd'hui, dont celui sur l'itinérance, parce que vous vous en rappelez, dans le métro de Montréal, on avait bloqué l'accès aux personnes itinérantes, c'est-à-dire qu'on avait empêché le flânage, là. Puis, si vous circulez dans le métro de Montréal, vous avez pu constater qu'à différentes stations, on a mis des panneaux, on a mis en place certaines stratégies pour que les personnes en situation d'itinérance ne puissent plus se coucher, dormir, s'asseoir. Ça avait quand même été très mal reçu, cette politique-là qui a pris fin la semaine dernière. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, parce qu'on se demandait, est-ce que ça va déplacer le problème ailleurs? Est-ce que ça va augmenter la détresse de ces personnes-là? Parce que moi, je l'ai constaté là en sortant des stations de métro. Je prends le métro à tous les jours pour venir ici chez Cogeco, ben, il y avait des attroupements parce que les gens ne pouvaient plus aller dans le métro. Donc, on parlera avec une spécialiste des organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes itinérantes, cette personne-là qui œuvre au sein du secteur du travail de rue. Et on va parler de droits animaliers. Vous connaissez le Festival de Saint-Tite. C'est une institution, ce festival-là. C'est très, très populaire. Ça se tient au mois de septembre à chaque année. C'est une source de revenus incommensurable pour la ville de Saint-Tite. Et je le dis au départ, moi, j'ai rien contre le Festival Western de Saint-Tite. Là, je trouve que la culture Western, c'est une super belle culture. Ça fait partie de notre patrimoine. Mais il y a des gens sont dans le domaine, disons ça ainsi, du droit animalier, qui trouvent qu'il y a des épreuves et des sections de ce festival-là qui vont à l'encontre du droit animalier. Ils ont entrepris des démarches judiciaires au sein du gouvernement pour faire cesser ces épreuves-là. On sera avec la porte-parole de Droits animaliers Québec pour en parler. Puis moi, le Festival Western de Saint-Tite de refuser de nous accorder une entrevue, je le dis tout de suite, mais moi, je veux les entendre. J'aimerais ça les entendre peut-être quand ils pourront se prononcer là, à la fin de ces procédures judiciaires-là, à savoir qu'est-ce qu'ils font pour le bien-être animal, parce que moi, je ne peux pas croire que ces gens-là qui sont autant passionnés s'en foutent de ce que les animaux ressentent pendant ces épreuves-là. Donc, on va essayer de faire le tour de la question et de réfléchir à tout ça ensemble avec notre invitée Christiane Bailey plus tard. Et connaissez-vous cette pub qui circule partout, qui nous reste dans la tête, Marc chez Rona, tu sais, qui est tirée de la chanson de 1979, My Sharona. Cette pub qui est rendue un véritable phénomène de culture populaire. On sera avec le concepteur, rédacteur qui est à la base de cette idée-là. Il a travaillé en équipe, mais il viendra un peu nous expliquer qu'est-ce qui est derrière cette création-là et les répercussions que cette campagne de pub-là a sur la société québécoise. Et enfin, je ne sais pas si vous avez un peu regardé ça hier du coin de l'œil. Moi, j'aime bien. C'était le Met Gala, grande messe de la mode où les acteurs, les actrices, en tout cas les célébrités les plus in à l'échelle internationale, parce que c'est sur invitation, ont défilé sur le tapis rouge dans des tenues, certaines étant très extravagantes, d'autres plus convenues. Il y a toujours un thème à chaque Met Gala. Je ne vous le dévoile pas. Vanessa Destinée s'en chargera à la fin de l'émission parce qu'elle sera avec nous pour décortiquer, oui, ce qui s'est passé hier au Met Gala, les costumes, les tenues et tout, parce que certaines tenues ressemblent à des costumes, mais aussi pour parler de c'est quoi culturellement le Met Gala, qu'est-ce que ça représente, pourquoi c'est si important, pourquoi les célébrités cherchent tant à se faire inviter à cet événement-là, qui est l'événement du Metropolitan Museum de New York. C'est Anna Wintour, en tout cas, si je ne m'abuse, qui fait ces invitations-là. C'est la rédactrice en chef culte du magazine Vogue. Donc, c'est quand même pas rien. Et des fois, je me demande si cet événement-là est pas plus important que les Oscars en termes de signification et de ce qui se joue en coulisses lors de cette soirée. Donc, elle sera là avec nous. Gros menu. N'hésitez pas à m'écrire sur mes médias sociaux aussi si vous avez des suggestions de sujets. Et je vous le dis, moi, je lis tout, je réponds à tout. On commence l'émission avec un sujet un peu moins jojo. Moi, c'est un dossier que je suis depuis quelques temps parce que, bon, la question des agressions sexuelles avec le MeToo fait partie de notre actualité, malheureusement, mais heureusement, dans un sens où il y a plusieurs procès qui suivent leur cours parce qu'on a beaucoup critiqué le système de justice, mais on a des procès qui vont de l'avant, qui fonctionnent, des victimes qui sont entendues. Et là, moi, je voulais revenir sur un procès qui touche le hockey. Parce que le hockey, particulièrement, rappelez-vous, le scandale avec Hockey Canada, là, le hockey a été touché par plusieurs scandales de nature sexuelle et ça a mis en lumière une espèce de culture d'acceptation, un système qui est en train de changer, mais tout de même, on est là-dedans. Et là, il y a un procès qui fait beaucoup jaser. C'est un procès qui vise des ex-joueurs d'équipe Canada Junior. Et là, on entend ces jours-ci les plaidoiries. Il y a une victime alléguée et ce sera les contre-interrogatoires. Et ça risque d'être difficile pour cette victime-là parce que les accusés ont des avocats qui, évidemment, les défendent et qui vont l'interroger, cette jeune femme. Et j'en parle avec Patrice Brunet, qui est avocat spécialisé en droit du sport, de ce procès-là, très médiatisé. Maître Brunet, bonjour.
Bonjour, Geneviève.
Bon, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de ce procès-là, là, ce qui nous occupe, ces anciens joueurs, d'équipe Canada?
Ben, en fait, si on se rappelle, c'est des joueurs d'équipe Canada qui participaient à une célébration, là, je pense en 2018 ou 2019, où ça leur permettait, où pendant cette célébration-là, ils ont fini la soirée à l'hôtel et puis ils ont agressé sexuellement quelques femmes. Puis ben ça, c'est le procès là, qui est en cours. Évidemment, le verdict n'est pas tombé encore. Mais,
donc, ils sont présumés agresseurs.
Ils sont présumés agresseurs.
Bon. Chacun, parce qu'ils sont cinq accusés, ces accusés-là, chacun a une équipe légale qui vont contre-interroger la victime alléguée. Et c'est un peu troublant quand on lit les différents articles de journaux par rapport à ces interrogatoires-là, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'on va tenter par tous les moyens, comme on l'a vu souvent en matière d'agression sexuelle, de remettre en question la version des faits de cette jeune femme-là. Et Maître Brunet, puis je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Quand je lis des affirmations comme « si vous pleuriez en sortant de la chambre d'hôtel, c'est que vous vous sentiez coupable parce que vous aviez un chum », et là, on sous-entend en fait que la victime aurait inventé cette histoire-là, donc aurait inventé avoir été agressée par ces joueurs de hockey-là dans l'esprit de dire « ce n'est pas de ma faute » pour éviter une rupture. Moi, je pensais que c'était fini, ce type de contre-interrogatoire-là. C'est-à-dire que depuis MeToo, ces interrogatoires-là de l'équipe de défense étaient mieux balisés. Est-ce que je suis dans l'erreur de penser ça? Comment ça se fait qu'on a encore des interrogatoires comme ça?
Non, c'est une bonne question, en fait, qui se pose vraiment pas dans un contexte de droit du sport, mais vraiment dans un contexte de droit criminel.
Oui.
Tu sais, faut des fois les gens pensent que parce qu'on peut se donner des coups de poing sur la glace, là, on est dans un espace de non-droit, puis c'est différent. Ou quand on est dans un party après un tournoi de hockey, on peut agresser des femmes parce que on est des joueurs de hockey, puis on a un statut de semi-vedette, c'est pas vrai.
La culture. Vous parlez de la culture hockey.
C'est ça, la culture hockey, il peut y en avoir dans d'autres sports également. Oui. Donc, je pense que ce que ça a fait de bon, cette affaire-là d'équipe Canada, c'est que ça a recadré le discours dans la société pour dire non, c'est pas parce que vous êtes une vedette de hockey ou une presque vedette, c'est pas parce que vous êtes dans le milieu du sport que vous pouvez vous permettre des choses que les autres personnes ne pourraient pas se permettre. Alors ici, on se transporte dans une cour pénale, dans une cour criminelle. Mm-hmm. Et puis, ces interrogatoires-là, ces contre-interrogatoires-là, se produisent dans un cadre criminel. Et puis, il y a un juge qui est là pour diriger les débats, puis diriger les interrogatoires, les contre-interrogatoires. Ouais. Et la justice va suivre son cours.
Oui, parce que moi, quand j'entends des affirmations comme vous aviez consommé de l'alcool, on n'est pas loin de vous porter une mini-jupe. Mais ça, c'est un commentaire purement éditorial de ma part.
Ça a plus sa place aujourd'hui.
Ben non, je trouve ça quand même spécial qu'un juge laisse passer ça dans une cour de justice, mais en même temps, la retranscription complète du procès n'est pas disponible dans les médias, donc peut-être que le juge est intervenu et on n'est pas au courant. Là, mais Maître Brunet, dites-moi. Moi, il y a un truc dans cette histoire-là avec ces cinq accusés qui me laisse perplexe et qui aussi ouvre la porte peut-être, puisqu'on parlait de culture ensemble il y a quelques secondes, par rapport au consentement, les vidéos de consentement. Parce que là, ce qu'on dit, c'est qu'après les faits, les accusés auraient fait tourner une vidéo à la présumée victime où elle prétend avoir consenti au geste. Puis je me disais, tu sais, les gens qui lisent ça peuvent se dire, ben c'est une bonne idée. Tu sais, je devrais faire ça, moi, une vidéo de consentement avant ou après. C'est quoi la validité de ces pièces-là légalement?
Ça, c'est une bonne question. Il faudrait poser à un avocat en droit criminel. J'ai une spécialisation en droit du sport, donc...
Mais vous êtes quand même avocat.
Oui, je suis quand même avocat, mais on n'a pas toutes les spécialités non plus. C'est sûr qu'il y a toujours un contexte qui va rentrer en ligne de compte dans un consentement.
Parce que chez les sportifs, c'est pas la première fois qu'on entend ça, là, des joueurs qui, justement, ne veulent pas se faire prendre dans des scandales, qui ont peur de se faire accuser peut-être à tort après d'avoir eu des relations non consensuelles. Ils pourraient avoir l'idée de tourner une vidéo de consentement. T'sais, puisque vous êtes avocat du sport, allons-y comme ça.
Oui, tout à fait. Il pourrait y avoir cette idée-là pour pouvoir se protéger, comme s'ils n'étaient pas dans le domaine du sport, ils pourraient
Absolument.
Avoir cette idée-là.
Oui.
Maintenant, s'il y a une plainte au criminel qui est déposée et qui est retenue, parce qu'il faut que le DPCP puisse accepter la plainte. Après ça, ça va être une question de contexte. Est-ce que la vidéo a été tournée dans le but de tromper par la suite l'intention initiale? C'est une question de preuve après ça. Est-ce qu'il y avait une réelle intention? Puis l'intention, c'est pas simplement au moment du début des activités, mais c'est tout au long des activités aussi. La personne a le droit de dire à un certain moment, stop, je ne veux plus continuer, même si j'ai dit oui au début. Alors, cette vidéo de consentement-là, d'accord, elle pourrait peut-être être déposée en preuve, mais la pertinence de cette preuve-là devrait être démontrée également tout au long de l'acte. Et puis, de toute évidence, ici, la victime, je pense qu'elle n'était pas consentante pendant tout le long.
Bon, on a ce procès-là, Maître Brunet. On a aussi Noah Carson, là, qui a été reconnu coupable d'avoir participé au viol collectif d'une adolescente. Il a écopé de 2 ans de détention. Ça se passait lundi à Drummondville. Est-ce que c'est l'image du hockey qui se joue en ce moment avec ces procès-là?
Le hockey prend beaucoup de place dans notre société, puis il y a une culture du hockey aussi qui je pense, puis on pense pas simplement aux agressions sexuelles puis à cette culture-là, mais on pense également aux initiations, on s'en rappelle, aux initiations qui allaient beaucoup trop loin. Et cette culture-là, malheureusement, je pense, existe encore dans un certain sens. Ça va prendre du temps avant qu'elle change, mais quand on parle de cette culture-là du sport, il faut bien, il faut pas peinturer le sport de la même couleur d'un
Absolument.
Sport
Absolument, ben oui, ça je pense c'est bien de le dire.
Tous les sports qui ont ça, mais le hockey est tellement omniprésent au Québec qu'il faut qu'on en parle. Mais cette conversation-là est importante, puis je pense qu'elle a beaucoup de bénéfices parce que il y a des systèmes qui ont été implantés auprès des associations de hockey. Il y a également des mécanismes pour permettre de dénoncer ces comportements-là, puis pas simplement au sein de Hockey Canada ou Hockey Québec, mais à travers la province. Avec le gouvernement du Québec a mis sur pied l'officier des plaintes. Alors, c'est possible dans n'importe quel sport, incluant le hockey. Si quelqu'un est victime soit d'une agression sexuelle, d'abord, il doit aller porter plainte à la police, mais ça peut être aussi du bullying, ça peut être du harcèlement, où la police ne va généralement pas intervenir. Alors, si une personne se sent harcelée, ça peut être harcelé, pas nécessairement sexuellement.
Ça peut être psychologiquement, des ambiances toxiques.
Oui, c'est ça. Il peut y avoir des entraîneurs qui sont, puis il y a des histoires d'entraîneurs qui ont harcelé leurs athlètes de façon répétée, puis à un tel point que ça a créé des problèmes de santé mentale.
Oui, on l'a vu en natation. Puis tu sais, moi je le redis, là, c'est pas seulement le hockey, ce ne sont pas tous les joueurs de hockey qui sont des agresseurs en puissance, là, parce que tu sais, à un moment donné, il faut le dire aussi.